franceinter.fr.
Il est 8h32. Et c'est donc la revue de presse à présent que je vous annonçais il y a un instant. On va repartir en Écosse à Édimbourg. Il n'y a évidemment rien dans la presse écrite, Bruno Duvic, puisque on connaît les résultats officiels du référendum depuis un peu plus d'une heure. Mais les télévisions, les médias étaient en édition spéciale toute la nuit.
Oui, et salut à nos confrères de la télévision britannique, la BBC en particulier, la Bib, en édition spéciale depuis la fermeture des bureaux de vote hier soir à 10h, une nuit entière. La BBC qui avait été accusée par certains militants de l'indépendance d'être de parti pris. Elle a essayé cette nuit d'être d'une neutralité sans faille, égrenant les chiffres sur un ton tout britannique. La cravate du présentateur n'a pas bougé d'un iota après ce marathon médiatique. 6h15, la Bib se lance et affirme que le non l'emporte alors que les résultats ne sont pas définitifs. Twitter peut enchaîner. Alex Salmond, David Cameron et les People. J.K. Rowling, la maman d'Harry Potter. Participation massive. Processus démocratique pacifique, dit-elle. Nous pouvons être fiers. De fait, la participation a atteint 80-90% dans certains comtés. C'est du jamais vu. Vous le disiez, Patrick, les journaux en kiosque n'ont pas le résultat, mais sur les sites internet, on titre, on illustre, on commente. Trois petits exemples. Le Daily Mail, en homepage, un militant de l'indépendance enroulé dans un drapeau écossais. Il est en là. Mais le Daily Mail n'a pas pitié. En titre, l'Écosse dit non, la Grande-Bretagne respire à nouveau. The Herald Scotland, commentaire, certes, la victoire du non est nette, mais que ceux qui dirigent la Grande-Bretagne ne croient pas que le problème écossais est réglé. Le Guardian, à Londres, est sur la même ligne. Ce qui est sur la table, commente le journal maintenant, c'est le nouveau plan de transfert de pouvoir à l'Écosse. Il faut aller vite. Ce plan, c'est comme les banques au moment de la crise. Il est too big to fail, trop important pour être abandonné.
Merci Bruno Duvic en direct de l'Institut français d'Édimbourg et merci pour toute cette page spéciale réalisée par une partie de l'équipe du 7-9 depuis l'Écosse. La revue de presse Vue de France et dans la presse française donc avec vous. Bonjour Yves Decamp.
Bonjour.
D'abord une coopérante de Médecins Sans Frontières contaminée par le virus Ebola qui a été rapatriée cette nuit de Monrovia.
Et hospitalisée dans un hôpital des armées à Saint-Mandé. Mesure de sécurité maximum, évidemment, que décrivent Le Parisien et Le Figaro. Chambre bunker, dont la porte s'ouvre par un capteur optique. Deux sas d'entrée, un trajet balisé pour la malade, qui ne doit rencontrer personne d'autre que le personnel soignant, lui-même en combinaison de protection. Un vrai scénario de science-fiction. Et oui, c'est que les experts sont extrêmement inquiets. Certes, comme le rappelle Damien Macrae dans Le Figaro, ces mêmes experts se sont trompés au début des années 80 en ne devinant pas que le virus du sida allait faire plus de 30 millions de morts. Certes, ils ont au contraire surestimé les dangers de la grippe aviaire, ensuite provoquant une psychose mondiale dans les pays qui pouvaient s'en payer le luxe. On se souvient des masques achetés par millions par la France. Et donc, cette fois, les experts ne font pas de pronostic, juste un constat. Le constat que ce virus peut muter rapidement et s'il venait à se transmettre par voie aérienne, eh bien il serait encore plus difficile à contenir. Et puis le constat surtout que l'épidémie paraît très compliquée à maîtriser, notamment pour les raisons qu'explique à Libération un médecin-chef de la Riboisière à Paris, Jean-François Bergman, que combattre Ebola, dit-il, c'est un peu comme combattre le djihad. Les facilités de déplacement compliquent les choses. La communauté internationale a tardé à prendre conscience de l'ampleur du problème. Enfin, toute mesure coercitive contre la population fut-elle justifiée, conduite à des réflexes de peur et de rejet ? Ce que raconte d'ailleurs aussi aux Parisiens ce médecin français d'MSF qui rentre d'une mission de 4 semaines en Sierra Leone. « Oui, dit-elle, j'ai eu peur, peur de cette marée de malades qui déferle, peur qu'un malade en panique se jette sur moi. » Pour autant, poursuit la jeune femme qui met un point d'honneur à se rendre où les autres ne vont pas. Pour autant, dit-elle, il faut le faire car il y a une telle urgence là-bas.
Des docteurs courage auxquels le chef de l'État a rendu hommage dans sa conférence de presse 4e du genre.
Et pas la plus indispensable apparemment. 2 heures pour du beurre, titre le point FR qui résume le sentiment général. D'autant plus regrettable qu'il a été plutôt bon, le président, foi d'éditorialiste, sûr de lui pour Christophe Bonnefoy dans le journal de la Haute-Marne, réussissant même à donner l'illusion d'un semblant de cohérence. Pour Yann Marek dans le Midi Libre, le président habite autrement sa fonction, il s'est présidentialisé, autrement dit. Un président sincère pour Hubert Coudurier dans le Télégramme, sincère et persistant à ne pas vouloir vendre des illusions, mais du coup, revers de la médaille, eh bien tout cela fut bien terne, écrit-il. Pour ne pas dire comme l'humanité que ce fut poussif, ennuyeux, laborieux, sinistre. Et même Laurent Geoffrin en convient dans Libération. Hollande a été sincère, clair, sans détour, mais quand parlera-t-il à la gauche ? Tant qu'il ne le fera pas, eh bien, conclut Geoffrin, il laissera les siens perplexes. Quant à l'anaphore, ce n'est pas facile, abondamment rappelé ce matin ici même, eh bien, elle sonne pour le Figaro comme un terrible aveu d'impuissance. Et oui, commente Paul-Henri Dulimbert, celui qui fièrement promettait la Lune, reconnaît benoîtement aujourd'hui qu'il ne maîtrise plus grand-chose. Et en fait, conclut l'éditorialiste du Figaro, eh bien, c'est pour les Français que cette présidence n'est pas facile.
Une présidence sur laquelle se projette de plus en plus l'ombre portée du président précédent.
Et oui, dont François Hollande a beaucoup parlé sans le nommer, souvent deux fois seulement. L'ombre portée de Sarkozy, c'est un titre du Parisien. Et Thomas Villers sur lemonde.fr confirme, c'est le problème du Monde d'ailleurs, hein, pour tout événement se déroulant en soirée, il est difficile à citer dans les revues de presse du matin. Mais sur lemonde.fr donc, le chef du service politique dit avoir vu dans cette conférence de presse un portrait en creux de Nicolas Sarkozy, auquel le président a fait allusion sur les déficits, la TVA, la liberté des médias, etc. Affichant d'ailleurs à son égard, du point de vue du Huffington Post, un mépris très mitterrandien. Ce qui revient, comme l'explique aussi Cécile Cornudet dans Les Échos, à ne jamais nommer son adversaire, mais à toujours le viser. De toute façon, ce n'est pas une surprise, on s'attendait à ça, mais sans doute pas si vite. En fait, commente Guillaume Tabar dans Le Figaro, c'est l'effondrement brutal de Hollande qui précipite le retour de Sarkozy. Et oui, parce qu'il revient, je ne l'avais pas précisé, mais vous verrez dans Le Parisien que tout est prêt. Le JT de France 2 dimanche soir, un meeting dès la semaine prochaine dans la région lilloise et peut-être une tribune dans la presse régionale. Bref, tout est prêt pour revenir aux commandes de l'UMP. Et c'est donc à l'inverse, je reviens à Tabar dans Le Figaro, c'est à l'inverse ce qui va sans doute désormais motiver François Hollande, comme s'ils avaient besoin l'un de l'autre, finalement. Et puis ce qui est drôle, tenez Patrick, puisqu'il me reste un moment, c'est qu'au même moment, le supplément loisirs du Figaro nous annonce, photo à l'appui, qu'à l'occasion du second jubilé impérial à Rueil-Malmaison, Napoléon repart en campagne. C'est le titre du Figaro. Alors, faut le voir, Napoléon, l'air décidé, haranguant la foule sous les traits d'un sosie de l'empereur, un Américain, Mark Schneider. Et le plus drôle encore, c'est qu'un deuxième sosie lui conteste le rôle. Un Français, Franck Sanson, qui lui vient d'être choisi pour incarner son idole à Waterloo le 14 juin prochain. Bon, Waterloo, c'est pas vraiment encourageant, mais peu importe, raconte Béatrice de Rochebouette, la bataille fait rage entre les sosies pour présider à ces fameuses reconstitutions historiques où la foule crie « Vive l'empereur !» en attendant donc la reconstitution de 2012.